Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Jusqu'où ira la pression contre les élus? Le maire d'Alès menacé, 2 balles de calibre 9 mm trouvées dans sa boîte aux lettres. L'ombre de la DZ Mafia plane sur cette affaire. Le ciel a viré la tempête dans de nombreuses régions. Une tornade a balayé hier Villars dans le nord de Saint-Étienne. Et ces orages et ces vents violents provoquent ce matin des perturbations sur les rails entre Toulouse et Paris. La grande boucle attend son premier coup d'éclat français. Justement, l'étape du jour entre Dole et Belfort est parfaite pour un exploit.
Et d'abord, donc, ce message d'intimidation visant un élu.
Le maire d'Alès a reçu jeudi 2 balles de 9 mm à son domicile et des inscriptions menaçantes faisant référence à la DZ Mafia ont été taguées sur un mur de sa maison. Et Ameline Lachin, c'est son épouse qui a fait cette découverte.
Oui, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres que la femme de Christophe Virenc découvre une enveloppe contenant 2 balles de calibre 9 mm et la signature de la DZ Mafia. Sur les murs de leur clôture, des tags injurieux et menaçants sont aussi retrouvés. « Je n'avais jamais reçu de menaces à ce niveau », confie le maire LR qui y voit, je cite, « la preuve que les actions menées contre ce groupe criminel présent dans la ville depuis l'été dernier pour récupérer les points de trafic déjà existants » portent leurs fruits. Je ne me laisserai pas intimider, fustige Christophe Virenc, promettant de continuer à faire son travail. Une enquête pour menaces de mort et intimidation a été ouverte et confiée au commissariat d'Alès ainsi qu'à la direction de la lutte contre la criminalité organisée.
Ameline Lachin.
On en vient au soulagement pour la famille de Mélanie.
18 ans de prison pour l'adolescent de 15 ans qui a poignardé à mort l'année dernière cette surveillante de 31 ans devant son établissement scolaire en Haute-Marne. Une décision du tribunal pour enfants de Chaumont, applaudie dans la salle d'audience et saluée par Evan, le beau-fils de Mélanie.
Moi, j'en suis très heureux. C'est une étape de franchie. Je considère qu'ils ont très, très bien compris le problème et la dangerosité du personnage. Je me suis exprimé à la barre et moi, Quentin, j'ai décidé de lui pardonner. Je ne compte pas me bouffer la vie alors que lui a décidé de bouffer la sienne. Et il ne mérite pas la haine ni la rage qu'il a pu susciter. Techniquement, il la mérite. Il a foutu sa vie en l'air, quoi. Moi, ma conviction profonde, c'est de faire changer les choses sur le sujet de l'accompagnement des élèves à l'école. De faire en sorte que Mélanie soit la dernière à mourir sur un coup de tête et qu'on soit la dernière famille brisée.
Il est 7h32 sur RMC et on part du côté de Saint-Étienne, touché par les intempéries.
Des orages violents, des averses de grêle, des rafales de vent et de nombreux dégâts hier. Toitures et arbres arrachés, 1 millier de foyers privés d'électricité et une tornade a même parcouru la ville de Villars. Gilles, témoin de la scène.
J'ai vu toutes les tôles du magasin s'envoler, partir sur le parking de l'hôpital. Puis je voyais mon toit, avec le vent, ça soulevait toutes les tuiles, tout ça. L'arbre rouge que j'avais, là, on ne voit plus qu'un petit morceau. Là, l'arbre, c'est carrément couché et tout. Pour coucher l'arbre presque au sol, ça soufflait fort. Hein. Ça fait peur. Des tempêtes comme ça fait peur.
Et 2 familles de Villars doivent être relogées. La toiture de leur maison a été complètement détruite. Autre conséquence de ces intempéries, un arbre est tombé cette nuit sur les rails dans le Lot, entre Toulouse et Paris. Un intercité parti hier qui devait arriver ce matin est resté bloqué cette nuit en rase campagne. Les passagers ne sont toujours pas arrivés en gare d'Austerlitz. Des retards toujours à prévoir ce matin. La SNCF espère un retour à la normale à partir de 9h.
La politique et le gouvernement qui annoncent la couleur. Il va falloir faire des économies dans le budget 2027.
Ouais, presque tous les ministères devront se serrer la ceinture avec une hausse des dépenses limitée à 0,4%, bien en dessous de l'inflation attendue. Presque 709 milliards d'euros de dépenses sont prévus pour l'année prochaine et le gouvernement demande également aux collectivités territoriales de ne pas augmenter leurs dépenses au-delà de l'inflation. Mais derrière les chiffres, Victor Joinin, ces arbitrages reflètent les choix politiques du gouvernement.
Oui, le gouvernement souhaite augmenter nettement le budget des armées de 6 milliards d'euros. Il compte aussi accorder une rallonge à la transition écologique, par exemple pour la gestion des forêts ou l'entretien des voies ferrées, et donner plus de moyens à la justice et au ministère de l'Intérieur pour lutter contre le narcotrafic, notamment. Enfin, l'enveloppe qui finance la recherche est préservée. Voilà pour les ministères gagnants. En revanche, tous les autres vont devoir faire des efforts, à commencer par celui du travail et de l'emploi, qui part près d'un dixième de son budget alors que le chômage remonte, et sans qu'on sache pour l'instant où les économies seront trouvées. Bercy indique juste vouloir s'attaquer aux dérives du compte personnel de formation. Mais toutes ces orientations doivent d'abord être débattues avec les parlementaires. Le budget de l'année prochaine sera voté à l'Assemblée et au Sénat à l'automne.
La promesse non tenue du gouvernement, il prévoyait des factures d'électricité stables cette année en 2027. Et on apprend qu'elles vont augmenter dès le 1er août de 2,5%. Cela représente 26 euros par an. 20 millions de Français sont concernés. Le gouvernement suit les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie.
7h35 sur RMC, on espère un exploit français aujourd'hui sur la grande boucle.
La 13e étape entre Dole et Belfort, la plus longue de cette édition, 205 km. Pourrait Kevin Morand permettre à un Français de briller aujourd'hui?
Oui, et après des premiers jours compliqués, le champion de France, Romain Grégoire, a retrouvé sa forme. Le franc-comtois sera sur ses terres aujourd'hui.
Ouais, ça donne des motivations supplémentaires. Je connaîtrai un peu les routes, en plus, surtout sur les 50 premiers kilomètres que je connaîtrai par cœur. Dans le Ballon d'Alsace, c'est sûr qu'il y aura un peu de monde. Je vais essayer d'en profiter et de me montrer parce que ça peut être encore une étape qui peut s'ouvrir aux échappées.
Le profil de cette étape, plate jusque dans les 50 derniers kilomètres avec deux ascensions dans le Ballon d'Alsace, rend le scénario du jour incertain pour Kevin Vauquelin.
C'est une étape qui peut être piégeuse. On peut avoir vachement de mal à pouvoir faire un pronostic, hein. Est-ce qu'un échappé, est-ce qu'une pas. Qu'est-ce que les sprinteurs, que les baroudeurs? On a aussi l'image de Mathieu Van Der Poel. Beaucoup de coureurs qui, je pense, sont aussi revanchards, mais je pense qu'on peut aussi rebattre les cartes.
Seuls deux des 12 étapes jusque-là ont réussi à un coureur parti en échappée. Les occasions se font rares. Jordan Jegat ne veut pas la laisser passer.
Il peut avoir une opportunité pour une belle échappée. Maintenant, c'est un départ sur le plat, donc il faudra être quand même un petit peu chanceux pour être devant. L'idéal, ce serait d'être accompagné de bons équipiers à moi, faire une belle montée et basculer dans un petit groupe et jouer la victoire, quoi.
Ce final d'étape escarpé sera un avant goût des deux jours suivants plus difficiles, des Vosges jusqu'aux Alpes.
Intégral Tour des 14h sur RMC.